Il est 19h17 sur Europe 1. Merci d'être à l'écoute de l'info avec notre invité des 10 prochaines minutes, la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon. Bonsoir.
Bonsoir.
L'actualité est dense, madame, à la veille d'une nouvelle séquence importante pour la vaccination. 413 000 vaccinés, dernier comptage hier. On est sur la bonne voie et sur une attitude positive des Français.
On est sur la bonne voie puisqu'on avait promis une accélération qui est en train de se mettre en place. De plus en plus de vaccinés, de plus en plus de centres qui ouvrent. On a dépassé les 800 centres, ça va s'accélérer. Et après, on sent un intérêt effectivement des Français, sachant qu'on a fait le choix de vacciner d'abord les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes en EHPAD, et que donc, et voilà, il va falloir que chacun accède à la vaccination au bon moment.
On est convaincu que la vaccination peut nous sauver, qu'elle peut être un sésame pour retrouver un semblant de vie normale. Mais le gouvernement, par la voix de Clément Beaune, aujourd'hui a coupé court à l'idée d'un passeport vaccinal qui pourrait nous aider à voyager, à se rendre dans d'autres lieux publics, du cinéma au théâtre. Faut-il fermer si rapidement le débat ou au contraire en discuter? Je vous pose la question comme citoyenne, femme de médecin également. Emmanuelle Wargon.
Je crois que c'est vraiment trop tôt pour parler d'un passeport, sachant que les vaccins sont encore en phase d'installation, les premières doses arrivent. On sait aussi que certains laboratoires mettent plus de temps à livrer que prévu. La vaccination n'est pas encore en libre accès puisqu'on a choisi encore une fois des catégories de population qui vont y avoir accès d'abord parce que les plus fragiles. Donc ce n'est pas le moment de dire France à deux vitesses entre ceux qui vont être vaccinés et ceux qui ne le seront pas.
Mais on garde ça dans un coin de la tête.
Vous savez, sur ce sujet, on est en évolution permanente et on ne peut pas dire ce qui va se passer dans 6 mois de façon ferme et définitive. Les choses changent trop vite. Avant les vacances, on avait peur du comportement des Français et le variant anglais n'existait pas. Donc vous voyez, les choses s'adaptent en permanence.
Voilà, on prend aussi cette humilité à notre compte. Cette épidémie, en tout cas, c'est notre quotidien en France depuis un an. Ce quotidien sanitaire qui se greffe sur d'autres angoisses. Celle des restaurateurs au chômage technique avec des frais fixes chaque mois. Est-ce que vous révisez aujourd'hui avec vos services les aides au loyer, au cas par cas, mois après mois, pour aider ces hommes et ces femmes dans la désespérance?
Alors moi, je m'intéresse surtout aux Français qui ont du mal à payer leur loyer de leur logement. Parce que voilà, leurs revenus ont baissé et que donc ils sont locataires et que c'est difficile de payer son loyer. Parce que ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre avec beaucoup de détermination. J'ai monté un observatoire des loyers et il montre qu'il n'y a pas d'explosion pour l'instant. C'est-à-dire que le risque qui est ressenti par tous, les associations, etc., pour l'instant ne s'est pas matérialisé. Mais on est aussi quand même en train d'améliorer les aides. Il y a plus d'aides côté Action Logement. Les collectivités locales qui portent des fonds de solidarité pour le logement sont en train de changer leur règlement d'intervention pour pouvoir agir plus vite. Donc on est vigilant. En fait, c'est clair que cette année 2021, ça va être l'année du social. Ça va être l'année de la prise en compte de toutes ces difficultés, de tous ces Français qui ont plus de mal à joindre les deux bouts. Il y a déjà beaucoup d'aides pour plein de catégories de population. On continuera, là encore, si nécessaire, pour ne laisser personne sans solution. Il y a trop de risques de dérapage, de passage à la précarité. Donc c'est très très important d'être là.
Bien sûr, parlons d'un public important et dans l'angoisse, les étudiants, ceux qui travaillent dans leur studette ou leur chambre de bonne, contraints à ces cours à distance, qui n'ont plus de petits jobs. Avec cette réforme du versement des APL qui intervient au 25 janvier, ces aides qui seront désormais calculées en fonction des revenus perçus sur la dernière année, sur les 12 derniers mois, comment prendre en compte le manque à gagner de ces jeunes avec cette restriction des aides de fait?
Alors, pour les APL, il n'y a pas d'étudiant qui va y perdre. Donc ça, je veux vraiment le dire très clairement. Les APL, on calcule les aides sur la base du dernier revenu connu, donc les 12 derniers mois.
Oui.
Pour les étudiants, soit ils n'ont pas de revenus par définition parce qu'ils sont juste étudiants, la question ne se pose pas, ils ont leur forfait APL. Soit ils travaillent, on a changé les règles récemment pour qu'elles soient plus favorables, parce qu'avant les étudiants qui travaillaient, parfois, quand leur revenu du travail augmentait, leurs APL baissaient. Et là maintenant, on a mis en place un forfait. Mais au-delà de la question des APL, moi je crois vraiment qu'il faut qu'on entende la détresse des étudiants. C'est probablement l'une des catégories pour laquelle la vie est la plus dure actuellement, parce que les cours en distanciel, c'est pas la même chose que les cours en présentiel à la fac, parce que beaucoup de petits boulots ont disparu, parce que les logements étudiants sont petits, parce que la vie sociale est moins là. Or, la vie sociale, quand on est étudiant, c'est la vie tout court. Et donc, le Premier ministre a reçu les associations étudiantes, on réorganise le retour à l'université par petits groupes. Le logement étudiant, on sait qu'il faut aller encore plus loin. Les étudiants, ça doit être une de nos priorités.
Il va falloir encore tenir, c'est ce que dit Emmanuel Macron à cette jeune femme étudiante à Sciences Po Strasbourg, qui l'interpellait en ces termes très forts. Hein. J'ai l'impression d'être morte, hein, de ne plus pouvoir rien faire. Au-delà de l'empathie, on fait quoi? Est-ce qu'il y a déjà des lignes directrices très tenues que vous pouvez nous énoncer, Emmanuel Wargon?
Il y a la question des moyens et des revenus. Donc encore une fois, les APL, ça ne sera pas un problème, c'est plutôt une solution. Après, je pense qu'il ne faut pas s'interdire de regarder pour tous les étudiants qui avaient des petits boulots et qui ont perdu des revenus, quelles réponses on peut apporter. Et puis après, il y a la lutte contre l'isolement. Parce qu'en fait, les étudiants, ils sont dans une situation qui concerne pas qu'eux d'ailleurs, qui est, ils avaient une vie collective, une vie sociale, il y avait de l'entraide, du contact, de la solidarité, et puis tout ceci s'est refermé. Et il y a plein de personnes qui souffrent de l'isolement pendant cette crise, pendant les confinements, maintenant pendant le couvre-feu. Ça doit aussi nous poser la question de comment on fait revivre des solidarités de proximité, bien sûr dans les résidences étudiantes, mais aussi à l'échelle des immeubles, des quartiers. Il faut qu'on retrouve cette capacité à aller les uns vers les autres. Et ça, il y a plein de manières de le soutenir.
Ce tissu social, et qui nous permet aussi d'appréhender la suite, est-ce que vous avez facilité l'accès à la location, la relocation pour la rentrée 2021 pour ces jeunes qui auront passé une année très compliquée, avec peut-être des soucis en face avec les propriétaires?
De toute façon, la location pour les jeunes, pour ceux qui commencent un boulot, pour ceux qui changent de ville, c'est le parcours du combattant. Moi, j'ai plein de témoignages, évidemment, dans mon ministère, de gens qui auraient de quoi payer un bail et qui n'arrivent pas à trouver parce que les propriétaires sont tellement exigeants et le marché est tellement tendu. Ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille. Comment est-ce qu'on peut apaiser la relation propriétaire-locataire? Comment est-ce qu'on peut donner sa chance à tous les locataires, même si ils viennent d'un quartier qui est moins chic avant que d'autres quartiers, même s'ils sont encore en période d'essai? Donc c'est difficile de signer un bail tant qu'on est encore en période d'essai, etc. Il y a du travail à faire sur les garanties. Je pense à la garantie Visale, par exemple, qui est une garantie payée par Action Logement, qui existe, mais qui n'est pas assez connue. Voire les propriétaires se disent « Ah là là, mais s'il y a Visale, j'aime pas trop, alors je loue pas ». Donc il y a aussi un appel un peu à la solidarité nationale et au sens civique aux propriétaires. C'est le moment de louer à des gens qui en ont besoin. Et les impayés de loyer, les défauts, sont en fait très faibles. C'est quelques pourcents, même pas. Donc, on peut souvent faire confiance et être récompensé d'avoir fait confiance.
Vous nous parliez, Emmanuel Wargon, comme ministre du Logement, mais comme ministre aussi, de cette France fracturée, de cette nécessité de tisser ce lien social. Jean Castex a été sommé par Emmanuel Macron de présenter un plan de lutte contre les inégalités pour dans quelques jours. Tous les ministres ont été sollicités pour cette réflexion. Vous avez des propositions très concrètes sur ce sujet, Emmanuel Wargon?
Oui, moi je crois vraiment qu'encore une fois, cette année, c'est l'année du social, l'année de la lutte contre les inégalités, l'année de la solidarité. Moi, je souhaite qu'on remette le logement social au centre de cette politique. Le logement social, 70% des Français y sont éligibles. Il n'y a pas assez de logement social en France, il faut en construire plus. Il faut en construire partout, donc continuer à exiger des communes qu'elles construisent des logements sociaux, même si elles n'ont pas très envie de le faire. Et retravailler la mixité sociale, c'est-à-dire à qui on attribue les logements sociaux. Trouver le bon équilibre entre les travailleurs clés, les travailleurs essentiels qu'on a vus pendant les confinements, les personnes les plus en difficulté, et lutter contre la ségrégation géographique. La France est un pays ségrégué avec des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Et ça, c'est plus acceptable. Et le logement social a toute sa place parce que c'est quand on attribue des logements sociaux, si on permet à des ménages plus modestes d'aller dans des quartiers plus riches, c'est bien pour tout le monde. Et si on rend un peu plus attractif des quartiers qui sont mal considérés, on retrouve un cercle vertueux de mixité locale, ce qui veut dire qu'à l'école aussi, les élèves vont se mélanger et que la réussite sera au rendez-vous. Donc je crois que c'est notre responsabilité de rétablir vraiment concrètement, localement, à l'échelle du quartier, de l'immeuble, cette mixité sociale et donc cette égalité des chances réelle.
Il ne veut pas oublier le social, Emmanuel Macron, dans la perspective éventuelle de la représidence 2022. La France a hébergé la 4e édition du One Planet Summit en début de semaine, Emmanuel Wargon, pour préserver la biodiversité. Et dans ce cadre, évidemment, on a parlé rénovation énergétique, rénovation thermique. C'est un cap important, on le sait. 2022, on ne pourra plus installer une nouvelle chaudière au fioul chez soi. Et les aides de l'État sont là. MaPrimeRénov, lancée il y a un an. Combien de Français en ont bénéficié aujourd'hui?
MaPrimeRénov, gros succès. Gros succès en 2020. Plus de 190 000 primes demandées. Notre objectif était entre 50 000 et 200 000. Et ça, c'était début janvier dernier, donc une période dont on se souvient même pas, avant le Covid. Mmh. Donc on a quand même eu 190 000 dossiers déposés. On espère entre 400 000 et 500 000 en 2021. C'est ouvert à tous. Tout le monde peut bénéficier d'une aide et d'un accompagnement pour changer sa chaudière, isoler ses combles, isoler sa maison. Et c'est vraiment le moment de le faire. Et c'est vrai qu'on est passé à l'acte sur les chaudières fioul. À compter du 1er janvier 2022, on ne pourra plus poser une nouvelle chaudière fioul quand on remplacera sa vieille chaudière fioul ou autre chose. Une chaudière fioul, une maison chaudière fioul 100 mètres carrés, c'est 50 000 km de voiture par an. Mmh. Donc voilà, ça émet 4 fois plus que le reste. Et en plus, c'est cher, hein, c'est 3 000 euros, entre 2 000 et 3 000 euros parfois, de plein de cuves de fioul à débourser. Donc maintenant qu'on a toutes les solutions techniques et toutes les aides, je le dis à tous ceux dont la chaudière va tomber en panne et qui voudront remplacer leur chaudière, on peut faire autre chose que le fioul.
Ma prime Rénov, lancée il y a un an, on parlera aussi de l'interdiction des passoires thermiques à la location dès 2028. Ça veut dire un diagnostic en plus, hein, mais pour la bonne cause. Arrêtons d'opposer écologie et construction, ça c'est votre maître mot. Ministre du Logement, Emmanuel Wargon, merci d'avoir répondu à quelques questions ce soir sur
merci
Europe 1.
À
bientôt. Merci beaucoup. Et le volet social, on le suivra évidemment dans les jours qui viennent. Merci.